Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 58 et nous allons avoir, Dieu voulant, encore une fois 15 à 16 directives et prières qui nous sont données par le Saint-Esprit. La première directive donnée par le Saint-Esprit concerne la Belle au bois dormant. Ce titre peut faire sourire, mais vous allez comprendre. Pour aborder le sujet délicat des malades mentaux, car il s'agit de cela, la Belle au bois dormant, il nous paraît judicieux de nous appuyer sur le tableau de la Belle au bois dormant. Il y a cette belle créature qui est enfermée à clé dans un château et gardée par des hommes laids et méchants afin que personne ne puisse entrer et délivrer cette jolie prisonnière. Elle reste ainsi cloîtrée dans le château de sa propre vie. Venant de l'ouest, nous arrivons comme le chevalier sur son cheval blanc pour délivrer cette belle jeune fille. Nous avançons remplis de la puissance de l'Esprit Saint, rayonnant de la splendeur et de l'amour de Dieu. La lumière brillante qui nous enveloppe illumine tout notre être. Nous attendons calmement, sans mot dire, sentant simplement la chaleur qui circule en nous. Par la force de cet amour, la vieille sorcière commence à se flétrir et tout à coup disparaît. Ça concerne notre malade mental. Et c'est alors que nous pouvons pénétrer dans le château et toucher la Belle au bois dormant. Elle reprend conscience, fait un mouvement, et puis elle nous sourit. Prenons-la un peu dans nos bras, montons avec elle sur notre cheval et retournons vers le pays d'où nous sommes venus. Oui, ces merveilleux contes de fées nous montrent la joie et les mystères cachés. Ces contes existent depuis des millénaires et s'apparentent aux vérités inscrites dans la Bible. Par conséquent, elles sont vraies. Leur réalité, l'effet qu'elles produisent dans la vie, font que les gens ne les oublient jamais. Ces légendes se répètent de génération en génération et tout le monde les garde en mémoire. Oui, Seigneur Jésus-Christ, notre merveilleux Maître et Sauveur, nous aimerions réapprendre toutes les merveilleuses histoires que tu nous as enseignées. Montre-les-nous sous un nouvel angle, avec de nouvelles explications et de nouvelles significations, afin que nous puissions les appliquer dans notre tâche pour le royaume. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, la deuxième directive qui nous est donnée par le Saint-Esprit, il s'agit qu'il soit calme. La guérison peut être instantanée pourvu que nous l'acceptions. Il est difficile d'œuvrer dans le calme. La moindre poussière brillant sous les rayons du soleil est chassée par un simple courant d'air. De même, le moindre mouvement rompra le calme qui nous habite. lorsque tout s'apaise en nous, lorsque les émotions cessent de s'agiter, nous pouvons sentir le calme et la tranquillité de l'amour de Jésus-Christ qui s'écoule en nous. L'huile de la réjouissance semble se déverser sur nous. Elle nous remplit de paix. Subitement, à notre grand étonnement, alors que nous pensions qu'il n'y avait plus d'issue, une porte s'ouvre. Christ, Jésus, est à la porte. Levons les yeux vers le haut, nous pensons alors « Oh, je sais, je vois et j'entends. À présent, je sais ce qu'il faut faire. Je prends le chemin que tu ouvres devant moi. Là est la vérité et j'y trouve la vie. » La guérison arrive alors. Rendons grâce à Dieu le Père. Remercions-le pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci mon Dieu et merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. La troisième directive qui nous est donnée par l'Esprit Saint a comme titre « Que la lumière soit ». Oui, que la lumière soit, la lumière viendra lorsque nous sommes sortis des ténèbres de nos fausses croyances pour que nous puissions être remplis. Eh bien, nous devons préalablement être vidés avant de pouvoir être remplis. Personne ne peut regarder le visage radieux de Christ et, dans le même temps, vivre dans le péché. C'est impensable. Et dès lors que vous sentez la présence divine et que vous voyez ce visage divin, il vous est impossible de faire marche arrière et de reprendre la vie comme avant. Vous ne retournerez sur vos pas que pour informer les autres et pour leur indiquer la lumière. Bien-aimés, ne désespérez pas lorsque vous retournerez en arrière et que vous tenterez d'informer les autres. Mais soyez patients. Laissez tout simplement votre lumière irradier et observez le silence. Laissez la lumière raconter son histoire. La lumière parlera plus fort et plus intensément que vous et que votre visage et votre sourire réunis. L'amour de Dieu transparaîtra, et ceci par le rayonnement de tout votre être. Et c'est ainsi que nous te servons et que nous te remercions. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quatrièmement, eh bien, nous avons là une prière qui nous est inspirée par le Saint-Esprit. Ça concerne la purification par le feu divin. Ô Dieu, purifie-nous en ton amour. Aide-nous à comprendre que le feu éternel est immortel, que le feu éternel est un feu qui purifie et renouvelle, un feu qui peut brûler et détruire. Aide-nous à voir ce qui arrive quand nous résistons à ton amour, à voir que le feu peut brûler, détruire et blesser si cruellement. Nous désirons que ton feu purifie et détruise en nous tout ce qui est mauvais. Nous désirons que la flamme du feu divin brûle tout ce qui en nous est indigne. Nous nous offrons en sacrifice volontaire pour brûler sur le bûcher de ton amour, sachant que tu détruiras tout ce que tu ne peux pas utiliser en nous. Merci, Père. Oui, merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cinquièmement, voici une prière inspirée également par le Saint-Esprit qui concerne voir l'intégrité. Seigneur, par toi, nous atteignons Dieu. Nous savons que tu vois tout et que tu comprends tout en ce qui nous concerne. Tu connais nos conditions et nos besoins. Nous t'apportons nos problèmes parce que tu peux nous aider à y voir clair et à les résoudre. Nous abandonnons toutes nos iniquités entre tes mains, car nous savons que tu peux nous en délivrer et les remplacer par la confiance et la foi en toi. Lorsque nous venons à toi, nous sommes débordants de sérénité et de paix. Alors, nous pouvons avancer en remettant tout entre tes mains bénéfiques. Et pour ceci, nous te remercions, oui, Père Céleste. Et merci, Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Merci, Jésus-Christ. Sixièmement, une directive qui nous est donnée par l'Esprit-Saint qui concerne être un disciple. Oui, il existe un ordre du nom de ordre des disciples de Christ. C'est un bien joli nom. En théorie, nous qui suivons les doctrines de Christ appartenons à l'ordre des disciples de Christ. Être disciple, c'est également être discipliné. Nous sommes entrés dans l'ordre en simple initié. Il nous reste beaucoup à apprendre, à subir et à comprendre. Il y aura des orages, des tentations et des crises. Comment allons-nous les affronter? Le secret réside dans la Bible et dans le lien qui nous unit à Jésus-Christ. Si nous touchons ce secret, tout va aller bien. Et il semble étrange que les disciples aient eu peur dans la nuit et dans la tempête, souvenez-vous, alors que Jésus-Christ était dans le même bateau qu'eux-mêmes. Même s'il dormait, le Seigneur, les disciples n'auraient pas dû avoir tellement peur, puisqu'il était avec eux. Le simple fait qu'ils puissent dormir au milieu du tumulte aurait dû les apaiser. Mais voilà que leur peur était la plus forte. Et ce récit renferme une véritable leçon. Lorsque vient l'orage, nous devons affronter des difficultés. L'orage ne va pas nous épargner du fait que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons affronter ce que tout le monde affronte. Cependant, lorsque vient la crise, nous avons l'assurance de sa merveilleuse présence et nous pouvons rester calmes et tranquilles sans qu'il soit nécessaire de le réveiller. Nous avons la capacité de tout supporter car nous sommes certains qu'il est là et s'il est présent, aucun mal ne peut nous arriver. Rien au monde ne peut nous troubler ni nous vaincre. Nous sommes ses disciples et nous avançons ensemble sans aucune crainte. L'apôtre Pierre était tellement débordant de l'Esprit de Christ qu'il guérissait des milliers de gens. Oui, il suffisait que son ombre couvre simplement un malade, un infirme ou même toute autre personne pour que la guérison puisse être effective. Nous désirons, nous aussi, être remplis de ton Esprit Saint et de suivre notre chemin sans crainte, quel que soit l'obstacle qui se présente, puisque, Seigneur, tu restes à nos côtés. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. La septième directive concerne la méditation. Christ désire que nous, qui sommes ses disciples, nous aimions les uns les autres comme il nous aime et comme le Père l'aime. Ah oui, voyez-vous, c'est une trinité parfaite. Vivant en cette trinité, nous découvrons l'expression « trois en un ». Le corps parfait, l'esprit guéri, est en effet tout au milieu, nous voyons l'âme. Je répète, trois en un, le corps parfait, l'esprit guéri, et au milieu nous avons l'âme. La Trinité parfaite est basée sur l'unité, l'amour est donc une unité. On ne peut pas dire de l'amour ce que Satan dit de lui-même, que son nom est Légion. Cela ne peut s'appliquer qu'aux forces négatives. Le nom du mal est toujours Légion. Mais l'amour n'a qu'un seul nom. Il y a dans l'amour une unité qui dépasse absolument tout, qui contrôle tout et qui guérit tout. La force positive est une unité. Le Seigneur ton Dieu est un. Tu n'en auras point d'autre devant lui. Nous ne devons placer aucun autre pouvoir devant lui. Les doctrines de Jésus-Christ sont rigoureuses, bienveillantes et débordantes d'amour. Elles ne sont ni sentimentales ni compromettantes, mais elles sont fortes et frappent juste. Lorsque nous écoutons ces enseignements, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi. Il est par exemple impensable d'exercer un pouvoir contre notre Dieu, autrement dit, de blasphémer, attention, car ceci constitue un péché contre l'Esprit Saint si nous blasphémons. Ce péché n'est pas pardonné, souvenez-vous toujours de cela, parce que le pardon est impossible dans ce cas. Par conséquent, ce péché ne peut être que évité. Il faut absolument, il doit à tout prix être évité. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous aimerions tellement que tu nous conduises sur ton chemin qui est la vérité. Nous t'implorons de nous donner du courage et de la force pour faire face à ton message qui parfois est sévère. Ne nous épargne pas, mais instruis-nous en tout. Nous aimerions être prêts à entendre tout ce que tu as à nous dire. Enseigne-nous et donne-nous l'intelligence pour tout comprendre. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Huitièmement, voici une pensée qui est donnée par le Saint-Esprit. C'est le temps d'une prière. Ce matin, à l'aube, je me suis levé et aussitôt j'ai entamé ma journée. J'avais tant de choses à faire, même pas le temps d'une prière. Les problèmes me submergeaient, les tâches toujours plus lourdes s'élevaient. « Oh, pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas » ai-je demandé. Il a répondu, « Mais tu n'as rien demandé. Je voulais la joie et la beauté. Or, grise et blafarde, la journée s'est écoulée. Pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas » ai-je demandé. Il a répondu, « Mais tu ne m'as pas cherché. » J'ai tenté de pénétrer en sa présence. J'ai essayé toutes les clés dans la serrure. Alors doucement, affectueusement, Dieu a murmuré, « Mon enfant, tu n'as pas frappé. » Ce matin à l'aube, je me suis levé et aussitôt je me suis posé avant d'entamer ma journée. Oui, j'avais tant de choses à faire et même j'avais, grâce à Dieu, un temps pour la prière. Merci Seigneur. Amen. Neuvièmement, voici un témoignage absolument important que tout un chacun devrait apprendre à connaître. C'est le pouvoir de la prière scientifiquement prouvée. Récemment, une découverte inouïe a été faite à propos du pouvoir de la prière. On peut désormais affirmer que le pouvoir de la prière est scientifiquement reconnu. Le docteur Novell, l'un des scientifiques les plus renommés des États-Unis, était reconnu pour ses positions ouvertement athées. Pendant des années, il a travaillé avec un groupe de spécialistes dans le domaine de l'énergie atomique pour en déceler les secrets et les clarifier. Et c'est ainsi qu'il a ouvert bien des pistes jusqu'alors ignorées. Il a également fait des découvertes qui non seulement ont servi de domaine, oui, absolument, le domaine de la science, mais qui ont aussi transformer sa façon de voir la vie. L'une de ses découvertes a eu une telle importance que sa façon de penser en a été complètement changée. Voyons un peu maintenant le récit qu'ils ont fait. Voici ce qu'il dit. « J'étais un athée convaincu, persuadé que Dieu n'était qu'une simple projection de l'imagination humaine. Je refusais de croire en un être vivant et divin qui nous aime tous et qui a tout pouvoir sur nous. Alors que je travaillais dans l'important laboratoire pathologique d'une grande clinique, j'ai été chargé de mesurer la longueur d'onde et la force de radiation du cerveau humain. J'ai accepté de diriger une expérience délicate avec mes collaborateurs. Nous voulions examiner ce qui se passe dans le cerveau humain au moment du passage de la vie à la mort. Et pour cela, nous avions choisi une femme qui souffrait d'un cancer du cerveau absolument incurable. Elle était parfaitement normale, donc elle était, on peut dire, d'âme et d'esprit, tout à fait comme tout le monde, normale. En outre, elle était connue pour sa générosité. Par contre, bien sûr, elle était maintenant physiquement dans un état déplorable. Nous savions tous qu'elle était sur le point de mourir. Nous avions appris que nous avions affaire à une femme ayant vécu dans la croyance de Jésus-Christ comme étant son sauveur absolument personnel. Aussi peu avant sa mort, nous avons installé un appareil ultra-sensible dans sa chambre. Cet instrument devait nous révéler ce qui allait se passer à l'intérieur de son cerveau au cours des derniers instants de sa vie et au-dessus du lit. Nous avons donc également placé un minuscule microphone ultra-sensible afin que nous puissions entendre ce qu'elle disait au cas où elle parlerait au moment d'expirer. Pendant ce temps, nous nous sommes rendus dans la chambre d'à côté. Nous avions sélectionné 5 scientifiques reconnus. J'étais probablement le plus suspicieux et le plus impitoyable du groupe. Nous entendions anxieusement, plantés devant les instruments, l'aiguille de l'afficheur était réglée en position zéro. Elle pouvait osciller entre 500 degrés à droite pour un enregistrement positif et 500 degrés à gauche pour un enregistrement négatif. Peu de temps auparavant, nous avions utilisé ce même appareil pour mesurer la puissance d'émission d'une station de radio qui émettait un programme d'une intensité de 50 kW dans les ondes. Il s'agissait de programmes devant être transmis dans le monde entier. Au cours de ce test, nous avions relevé une mesure positive de 9 degrés. La femme semblait à présent vivre ses derniers instants. Soudain, nous l'avons entendue prier et carrément louer Dieu. Elle a imploré Dieu de pardonner tous ceux qui lui avaient fait du tort au cours de sa longue vie. Puis, elle a exprimé pleinement sa foi en Dieu en disant « Je sais que tu es la seule source valable de puissance pour chacun, pour chacune de tes créatures et que tu le resteras. » Elle lui a rendu grâce pour la force inébranlable avec laquelle il l'avait supportée durant toute sa vie et sa certitude d'appartenir à Christ. Elle lui a proclamé que, en dépit de toutes ses souffrances, son amour pour lui n'avait jamais diminué. Alors qu'elle se remémorait le pardon de ses péchés par le précieux sang de Jésus-Christ, ses paroles révélaient une béatitude indescriptible. Elle a finalement expiré dans la joie et avec la conscience de voir bientôt son Sauveur et son Maître. Nous, nous tenions autour de nos instruments, profondément émus. Même, nous avions complètement oublié ce que nous voulions vraiment étudier. Nous nous regardions les uns les autres sans avoir aucune honte de pleurer. J'étais tellement impressionné par ce que j'avais entendu que j'ai pleuré comme jamais depuis mon enfance. Tout à coup, alors que la femme continuait à prier, nous avons entendu le cliquetement de nos instruments. Et lorsque nous les avons regardés, nous avons constaté que l'aiguille de l'indicateur était à 500 degrés du côté positif et qu'elle heurtait continuellement la butée. Donc l'énergie de radiation pouvait excéder l'échelle de mesure de nos instruments. Seule la petite butée empêchait l'aiguille d'aller plus haut, ou si nos pensées se bousculaient. Grâce à un appareil de mesure technique, nous venions de faire une découverte stupéfiante et inédite, que le cerveau d'une mourante qui était en contact avec Dieu développait une force 55 fois supérieure à la puissance d'émission de messages lancés dans le monde entier. Souvenez-vous de l'affirmation du docteur Alexis Carrel, gagnant du prix Nobel, selon laquelle la prière est la forme la plus puissante d'énergie productive. Quelque temps plus tard, afin de creuser tout de même nos observations, nous nous sommes à nouveau regroupés pour une nouvelle expérience. Cette fois-ci, nous avions choisi un homme très violent. Après avoir procédé au réglage de nos instruments, l'homme a réagi par des insultes et des injures inimaginables. Apparemment, cela ne lui suffisait pas, et il a même fait mauvais usage du nom de Dieu en le blasphémant. À nouveau, nos instruments ont cliqueté. Nos regards intrigués étaient rivés sur l'échelle de mesure. Et quel choc nous avons subi lorsque nous avons vérifié que l'aiguille indiquait 500 degrés côté négatif et qu'elle heurtait même la butée. Nous avions atteint le but de notre découverte. Nous avions établi au travers de mesures instrumentales ce qui se passe dans le cerveau humain lorsque celui-ci transgresse l'un des 10 commandements. Nous avions réussi à prouver scientifiquement, sans l'ombre d'un doute, le pouvoir positif de Dieu et le pouvoir négatif du diable. Il nous est très vite apparu clairement que la personne vivant selon les lois divines et au contact de Dieu irradie le pouvoir de Dieu. À l'inverse, le fait d'ignorer les commandements de Dieu tu ne feras pas, etc., engendre une radiation négative qui est une force satanique. À cet instant, ma philosophie athée, totalement athée de la vie, a commencé, croyez-moi, à s'écrouler. La pensée suivante m'a submergé. Pourrait-il effectivement exister un Dieu capable de recevoir les messages qui lui sont envoyés par la prière ? Dans l'affirmative, je me tenais aussi devant le Dieu omniscient. La folie de mon incroyance m'apparaissait de plus en plus claire. Par souci d'honnêteté personnelle, je ne pouvais pas me fermer à la vérité profonde. Je suis donc devenu un joyeux disciple de Jésus-Christ qui a appris à croire en celui qui est devenu définitivement mon sauveur et maître. Oui, mon sauveur personnel. À présent, je sais vraiment que l'auréole que les artistes peignent très souvent autour de la tête de Jésus-Christ, vous l'avez sûrement déjà vu, n'est pas simplement une simple fantaisie artistique, mais une divine réalité. Quelle force de délivrance irradiait Christ ? Et quelle force elle irradie aujourd'hui encore ? Le même pouvoir peut être révélé dans la vie de celui qui est sauvé, car Jésus-Christ a dit « Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez de la puissance et vous serez mes témoins. » Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Nous avons tous un tel besoin de cette force de Dieu, de cette puissance de Dieu dans la lutte contre les forces des ténèbres. Et en tant qu'ancien athée, je remercie Dieu de m'avoir rempli, moi, le mauvais, le perdu, de son Saint-Esprit et de sa puissance. Et vous, chers frères et sœurs, comment l'aiguille de l'indicateur réagira-t-il dans votre cas ? De quel côté de l'échelle de mesure ira-t-il cette aiguille-là ? Si vous avez conscience que l'aiguille indiquerait une valeur négative, alors s'il vous plaît, je vous en supplie, oui, je vous en supplie de vous tourner carrément vers Jésus-Christ, car voyez-vous, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous donnerai du repos. » Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Chers amis, la 13e directive qui nous est donnée par l'Esprit Saint concerne notre Rédempteur. Le silence, l'obscurité, voilà donc les fondations de l'activité du Rédempteur. Sa vie nous apparaît comme une pyramide dont la base est énorme comparée à la hauteur. 30 années d'effacement contre 2 années et demie de notoriété. Encore, les évangiles n'ont-ils rien à nous dire sur la majeure partie du ministère public de Jésus-Christ ? Quelle est la signification de ces faits ? Suis-moi. Cela signifie d'abord, apprends à te connaître toi-même. À l'acquisition de cette science, Jésus-Christ a consacré la plus grande part de sa vie. Apprenons-nous aussi à nous poser les sublimes questions « Qui suis-je ? D'où viens-je ? Et où vais-je ? » Voilà le digne emploi de la pensée. Pour cela, direz-vous, il faut du recueillement et notre existence est haletante. Alors, simplifiez, élaguez, brûlez. Il y a peut-être du fatras dans vos journées si remplies. Il y a l'incroyable gaspillage de temps. Les gaspilleurs de temps doivent enlever quelque chose à leur vie et déblayer le terrain où croîtra la divine semence. Mais les pauvres de temps doivent ajouter à leur vie un peu de terre végétale pour la semence du ciel. Maintenez vos prérogatives sacrées sur l'animal. Ne vous laissez pas tomber au rang des simples choses. Coûte que coûte, ayez le courage, ayez l'ambition de regarder en haut. En haut, chaque jour, et tournez votre visage fatigué vers le Père Céleste qui est aux cieux, jusqu'à ce qu'un rayon de sa grâce vienne réchauffer votre front. Seigneur, oui, enseigne-nous à nous taire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. 14e, la 14e directive donnée par le Saint-Esprit est au sujet de la prière. La prière est l'acte intérieur par lequel nous nous emparons des énergies spirituelles indispensables à notre épanouissement complet. La prière est la condition de notre parfait développement et par conséquent de l'humanité normale. Prier est l'activité virile et sublime par excellence. C'est l'activité héroïque par laquelle nous prenons contact avec la force éternelle qui besoigne au fond des choses, qui élève l'humanité au-dessus de l'animalité et qui élève le genre humain lui-même jusqu'à un type supérieur de l'existence dont Jésus-Christ nous est le garant glorieux. Par la prière, en un mot, nous nous haussons à la stature de Christ, de même que certains moteurs se chargent d'électricité, de même celui qui prie emmagasine, il emmagasine de la force morale. Son âme élargie, purifiée, elle s'élève au-dessus du niveau moyen, elle rayonne, elle s'exalte pour ainsi dire, elle devient capable d'œuvrer imprévu, oui, et d'efforts surnaturels. Oui, elle se surpasse même elle-même et elle représente momentanément une phase de son développement ultérieur. Elle est donc pour elle-même, dans le présent, une prophétie de ce qu'elle sera dans l'avenir. Oui, un gage des transformations ineffables qui lui sont promises, une garantie même de son immortalité. immortalité. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Quinzièmement, voici une directive donnée par le Saint-Esprit qui est au sujet de la Bible. La Bible est le livre de l'invisible, le livre de la régénération, le livre de la vie, les âmes dont elle est émanée, palpitante, vibre toujours en elle. Elle est un courant, elle est un souffle, elle est un cœur qui bat, une volonté tendue immuablement vers le but et qui nous porte et nous entraîne. Elle est une pensée plus vaste que toute pensée et toujours agissante. Elle est le Verbe qui n'a jamais cessé de se faire chair et qui cherche à s'incarner en nous-mêmes pour nous employer à la réalisation de ses desseins magnifiques. Oh, ceux qui ne voient dans la Bible qu'un volume sur lequel on laisse la poussière qui s'accumule, un volume qu'on feuillette par acquis de conscience et qu'on referme avec ennui. Ceux qui n'éprouvent pas, en l'ouvrant, le vertige de l'infini, ceux-là sont absolument loin, loin de participer à la vie de l'Esprit Saint dans sa plénitude. En réalité, ils n'ont pas été complètement saisis par Jésus-Christ, car c'est lui, en définitive, qui est le héros de la Bible, qui en est même l'âme, or la parole écrite n'est que le vêtement diaphane de la parole vivante. Et voilà plus de 2000 ans que l'enthousiasme pour le Sauveur se confond au sein de l'humanité avec l'enthousiasme pour la Bible, non pas pour la lettre même de l'Écriture sainte, mais pour l'Esprit Saint dont elle est et dont elle restera le véhicule pour notre humanité. Et pour terminer, 16e, nous avons cette 16e directive qui est donnée par le Saint-Esprit au sujet de notre Sauveur. Oui, il vit. Il vit comme vous et moi, et dans un sens beaucoup plus vrai, il vit. Il vit. Quelle démonstration des réalités invisibles! Les sens pourraient-ils s'en douter? L'avez-vous rencontré vers minuit sur un chemin désert? Avez-vous surpris le bruit de ses pas dans votre chambre? Quand vous étiez malade, a-t-il posé ses mains guérissantes, sur votre front brûlant? Au cimetière, le son de sa voix consolante s'est-il mêlé au gémissement du vent? Malgré tout, il vit. Jésus-Christ vit. Il est celui qui peut dire, étrangement et magnifiquement, « Oui, je suis le vivant. » Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Caché au regard, il vit. Quand le ciel noir s'abat sur les naufragés, quand les explorateurs périssent de soif sous un ciel implacablement bleu, quand le ciel rose de l'aurore sourit ou guet-apens des assassins même, et quand le ciel reste obstinément sourd à la supplication des veuves et jette le voile doré de son immuable sérénité sur toutes les tombes, le ciel paraît vide, mais il n'en est absolument rien, car Jésus-Christ vit. Tu vis, alléluia, et je te rencontrerai un jour bientôt. Tu vis et tu me vois. Que de fois je l'ai oublié, que de fois j'ai négligé de marcher à la clarté de ton regard. Qu'importe ma gaucherie ou ma laideur, mes vêtements usés ou disgracieux, toi, tu me vois. Tu m'as vu déjà au berceau, tu m'as vu à l'école, tu m'as vu dans le sanctuaire de la famille, tu m'as vu quand j'ai tendu la main à mon ennemi ou quand je me suis agenouillé en secret. Tu as vu ce que je ne vois pas moi-même, les sentiments cachés de mon âme, et les ombres qui peuvent passer sur mon front durant mon sommeil. Oui, là, tu m'as vu. Tu m'as vu et tu as vu ce que j'ai voulu être et tu vois ce que je voudrais être. Un nouveau Nathanaël, mais le Nathanaël dans lequel il y a hélas encore de la fraude. Je sens maintenant ton regard profond qui est fixé sur moi et j'entends la voix grave, aimante et majestueuse qui répète « Lorsque, rappelle-toi, déjà quand tu étais sous le figuier, oui, je t'avais déjà vu. Il nous voit, car il vit, et nous le verrons, car nous vivrons avec lui. Ô bien-aimé, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Et mes chers amis, encore je vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à ces études. Oui, et croyez-moi, la suite des études sur la prière vont être encore plus intéressantes et profondes. Elles vont vous aider, croyez-moi, pour avancer d'une nouvelle façon avec votre Sauveur bien-aimé. À bientôt à nouveau donc. Au revoir, mes très chers amis.